Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Les coulisses de la mémoire. Je voudrais aujourd'hui évoquer une personnalité qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux parler de Michel Galabru. Il est né en 1922, il est mort au mois de janvier 2016. Et il a écrit lui-même une autobiographie à laquelle je vais emprunter quelques textes pour mieux vous présenter le personnage. Tout d'abord, voilà le début du livre. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Débutons par un fait déjà très étrange. L'arrivée en ce monde. On ne naît pas où l'on veut, et disons-le une bonne fois pour toutes, naître est arbitraire. Sans que l'on vous demande votre avis, sans raison apparente, vous pouvez ainsi vous retrouver en plein Sahara, comme en Poitou-Charentes, en face de Ségolène Royal, dans la riche bourgeoisie, comme dans une famille d'ouvriers. L'enfant est expulsé, jeté sur terre en dépit de sa volonté. Il pourra être musulman, juif, catholique, bouddhiste, plus ou moins bien loti, rien ne lui permet de choisir son point de chute, sa morphologie, son environnement, son entourage ou son sexe. C'est extraordinaire de penser que l'on peut indifféremment débarquer à Paris ou en Iran, ce n'est tout de même pas pareil, surtout si l'on est une femme. Et les parents, sont-ils riches, sont-ils pauvres, sont-ils plutôt heureux ou alcooliques, sont-ils dégénérés ou puissants? Ce sont là les questions que se pose l'enfant qui naît. Où a-t-il mis les pieds? Il est temps que quelqu'un le dise, tout débute par ses premières inquiétudes. Le nouveau-né sans souci, mais il n'a pas voix au chapitre. Comment croire dans de telles conditions que le libre arbitre existe. Imaginez un peu ce qui se passerait si la médecine trouvait enfin une solution pour nous permettre le choix. L'avancée la plus spectaculaire serait de donner à l'enfant le pouvoir de refuser de sortir si sa zone d'atterrissage ne lui convenait pas, voire de choisir son point de chute. Visualiser la scène. Il sort donc de face, et au fur et à mesure de son avancée, il écarquille ses yeux, déploie son regard. Bref, il découvre le lieu qu'il accueille. La tête un peu bizarre de ses parents, le miséreux décor de sa vie future. Et là, dans l'hypothèse d'un vrai libre arbitre, il pourrait soit accepter son destin et achever sa sortie, soit se carapater vite fait, horrifié dans le vent de sa mère. Nous pouvons même envisager une solution plus détendue. D'un simple signe de la tête calme et serein adressé au médecin, il serait réorienté vers une autre destination. Reconnaissez qu'il serait plus sensé que l'enfant, sur le point de naître, puisse considérer sa situation, estimer si les conditions sont opérieuses pour lui, et à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, détenir la liberté du refus. Un coffre d'été pour que son choix se fasse dans les meilleures conditions, qu'il soit renseigné sur le profil médical de sa future famille. Car si certains scientifiques prétendent pouvoir même prévoir les maladies potentielles que nous risquons de développer d'améliorer notre génome, rendez-vous compte de l'arnaque dans laquelle nous nous trouvons. En plus des conditions sociales et géographiques, nous sommes victimes de l'hérédité de ceux qui nous précèdent. Non seulement nous n'avons pas un mot à dire, mais en prime, nous devons supporter le poids des générations. Dites-vous bien qu'un coup sur la gueule pris par un type en 1914 ne secoue pas que le bonhomme qu'il a reçu, mais son fils, son petit-fils, etc., etc. Nous sommes programmés, ferrés à la naissance par les chaînes de notre ADN. Cette situation a révolté plus d'un enfant, j'en suis sûr. Pour ma part, j'ai plutôt eu de la chance. Cela a eu lieu un soir de 1922, dans une maison du quartier de sa fille, au Maroc. Et très tôt, Michel Galabru veut faire du théâtre. Et d'ailleurs, on ignore, enfin on a oublié souvent, que pendant 7 ans, sorti avec un premier prix du conservatoire, il a été pensionnaire de la Comédie-Française. Ça veut dire que pendant 7 ans, il a joué pratiquement tous les grands classiques du théâtre français et étranger. on est en droit de regretter que les gens ne connaissent pas mieux cet aspect inhabituel, disons inattendu, de Michel Galabru. Alors, il a appris son métier à la meilleure école. J'ai appris mon métier dans des conditions véritablement exceptionnelles. Non seulement parce que j'ai connu des artistes de grand talent, de grande intelligence, mais parce que j'ai plusieurs fois la possibilité de travailler et de jouer des rôles magnifiques. Je me croyais important parce que j'avais atteint mon but. En fait, je n'étais pas grand-chose, le travail était dur. En tant que jeune pensionnaire, je recevais 300 francs par mois, ce qui n'était pas un luxe. Je jouais près de 45 fois dans un mois, qui comprend 30 jours, ce qui signifie que souvent, je pouvais jouer deux fois dans la même soirée. Je tenais un premier rôle au théâtre de l'Odéon, on m'emmenait pour l'emprunter un second dans la salle Richelieu, un taxi venait me chercher, je me changeais dans le taxi. Passer ainsi d'une pièce à l'autre était, pour ma mémoire, un exercice très contraignant. J'apprenais des nuits entières, hanté par la crainte de tout oublier. J'étais comme Pénélope qui, chaque jour, fait et défait son ouvrage. Il fallait toujours tout recommencer. On faisait, comme on disait, un raccord avec les sociétaires le soir, à la va-vite, en ayant répété tout seul dans son coin et en priant pour que cela marche. Après la Comédie française, que Michel Galabru décide de quitter, il va se heurter à la nécessité de construire son propre personnage, sa propre carrière. Et déjà, je ne sais pas si c'est un handicap, il y avait le problème de son physique. Je n'étais pas en conformité avec mon physique. Ce qui fait rêver les gens dans l'amour, au cinéma, au théâtre, c'est la beauté. Or, j'en avais plein, des tonnes de beauté, mais ça débordait, mais en l'intérieur. Les réalisateurs de cinéma, les metteurs en scène de théâtre ne pensaient pas à moi pour incarner les héros fous d'amour. J'étais le Charles Aznavour des planches, moche, mal foutu, personne n'y croyait. Aznavour s'est accroché, il a su donner de la voix, il a su montrer sa valeur. Je n'ai pas eu cette chance. J'aurais voulu jouer Cyrano de Bergerac parce que je me sentais proche de lui. Je souffrais du même handicap, mon physique qui me complexait, m'interdisait toute possibilité d'aller manifester mes sentiments. Cyrano ne dit pas à Roxane tout ce qu'elle lui inspire. Il ne s'épanche qu'à la fin, quand c'est trop tard, il va mourir. Je n'ai jamais compris pourquoi ce rôle revenait systématiquement au jeune premier. Je ne comprenais sans doute jamais. Avec les femmes, c'était exactement la même chose. Je n'étais pas trop laid, j'aurais pu leur plaire, en théorie. Encore aurait-il fallu que je les aborde et que je m'exprime. Thank you. Il aura fallu attendre 1977 pour qu'on reconnaisse publiquement, enfin, l'immense talent de Michel Galabru dans le film Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, où il jouait aux côtés de Philippe Noiret. Mais auparavant, il était devenu un acteur très populaire, puisqu'il a participé à l'aventure des gendarmes de Saint-Tropez, puisqu'il faisait partie de la bande qui entourait Louis de Funès. Et sur la quantité impressionnante de films dans lesquels il a tourné, je voudrais rappeler quand même les gendarmes, bien sûr, mais qu'il a eu l'occasion de rencontrer des gens à qui, dans son livre, il rend hommage. Par exemple, bon, bien sûr, Louis de Funès, mais aussi Jean Gabin, Rému. Voici à propos Fernandel aussi. Voici ce qu'il dit à propos d'un acteur injustement un peu trop négligé de nos jours, Michel Simon. Pourtant, c'était un caractère difficile sur le plateau. Michel Simon est peut-être l'acteur de cette génération disparue que j'admire entre tous. Il ne parlait pas seulement avec franchise, il ne s'imposait aucune limite. Je l'ai côtoyé une fois sur le tournage de L'Ibis Rouge, son dernier film d'ailleurs. Moqui, le réalisateur, idolâtrait sa vedette, il se mettait dans tous ses états. Michel Simon est prêt. Michel Simon descend, il va entrer, la star arrive, la prise est bonne, recommence, c'est plus sûr. Je viens d'être témoin d'un véritable miracle, celui de la différence entre un acteur honorable et un génie. Une jeune fille qui joue du piano, qui interprète un concerto de Mozart, même très correctement après 10 années de conservatoire. On l'a trouvée patente, on la félicite, elle n'a pas trahi le compositeur, elle avait passé un bon moment à son éditoire, c'est fort bien, mais le concertiste, celui qu'on s'arrache dans le monde entier, il vous tire carrément les larmes avec ce même concerto pour piano de Mozart. Il a pourtant joué la même partition, ça m'en voilà, c'est un monde sacré de la musique. Quand Michel Simon disait son texte, face à la caméra, il produisait le même effet que le grand concertiste. Ses intonations résonnaient parfaitement justes. Dans un tel jaillissement des tréfonds de l'âme humaine que c'était étonnant de vérité, ça vous marquait à jamais. Et le réalisateur Jean-Pierre Mocky aurait voulu lui être agréable. « Monsieur Simon, quelle prise est-ce que vous préférez, la première, la deuxième ?»« Je les emmerde toutes les deux. »« Tu vois, Galabru, je suis convoqué à l'Élysée par Monsieur Giscard d'Estaing en personne. »« Je ne vais pas y aller, tu vois. » J'ai appris plus tard qu'il s'était rendu tout de même à l'invitation du président de la République. Et si nous a quittés au début de cette année, après nous avoir notamment repris au théâtre La femme du boulanger, ou après que Rému l'ait créé, il a, d'un simple mot, marqué un film qui a eu un succès phénoménal. Ce film, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, où il dit un seul mot. Mais il le dit de telle façon que les spectateurs, en sortant de la salle, gardent ce mot-là en mémoire. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.